présent. Bien que mes journées passent lentement, je suis toujours surprise de constater avec quelle vitesse les dimanches reviennent. Cependant, aujourd'hui, c'est la déprime qui est au rendez-vous, car aucune visite à Millie n'est au programme. Sans en être certaine à 100%, je pense que Jack ne m'emmènera pas là-bas, car nous y sommes allés deux fois de suite. Mais comme il pourrait aussi décider de me faire une surprise, je pars à l'éventualité en me douchant, puis en me séchant la tête et le corps avec l'essuie-main qui m'est concédé. Drap de bain et sèche-cheveux sont des luxes appartenant à une époque révolue, de même que les séances chez le coiffeur. M'essuyer est une plaie en hiver, mais ça peut aller. Mes cheveux à qui on refuse la grâce de la chaleur et d'une paire de ciseaux sont longs et brillants. Avec un brin d'adresse, j'arrive à les fixer en un nœud lâche pour qu'ils ne me tombent pas sur les yeux. J'ai connu des conditions meilleures. À notre arrivée ici, j'avais une chambre beaucoup plus jolie, équipée de tout un tas d'objets destinés à me divertir, dont Jack m'a peu à peu privée, à chaque nouvelle tentative de fuite. Ça a d'abord été la bouilloire, puis la radio et les livres. Privée de sources de distraction, je me suis résolue à étouffer l'ennui de mes journées en jouant avec ma garde-robe, mélangeant et assortissant les tenues rien que pour tuer le temps. Mais après un énième échec pour me sauver, Jack m'a exilée dans la boîte qui me sert actuellement de chambre, non sans avoir veillé à la vider de tout confort, à part pour le lit. Il a même pris la peine de fixer des barreaux à la fenêtre. Ayant perdu mon vestiaire dans la bataille, j'ai été obligée de compter sur lui pour me donner mes vêtements le matin. Sauf que ce droit-là aussi m'a rapidement été confisqué, et aujourd'hui, à moins que nous soyons de sortie, je reste en pyjama 24 heures sur 24. Bien qu'il m'en fournisse un propre trois fois par semaine, rien ne vient me soulager de la monotonie de devoir porter jour après jour ce substitut d'uniforme. D'autant que les pyjamas sont identiques, même coupe, même couleur, noir, sans rien pour les distinguer les uns des autres. Il n'y a pas très longtemps, quand je lui ai demandé si, pour changer, je pouvais mettre une robe durant la journée, il m'a apporté un rideau qui avait décoré ma maison et m'a dit de m'en fabriquer une avec. Il s'est cru drôle puisqu'il savait que je n'avais ni ciseaux, ni aiguilles, ni fils. Le lendemain, quand il m'a trouvée enveloppée dedans comme dans un sarron et plutôt satisfaite de ma provocation, il me l'a repris, agacée par mon ingéniosité. D'où sa petite blague au profit d'Esther et des autres sur mes talents de couturière. Il adore me lancer ce genre de défi afin de voir comment je vais me tirer d'une remarque qu'il lâche dans la conversation, dans l'espoir que je trébuche et qu'il puisse me punir. Malheureusement pour lui, je suis de plus en plus douée pour improviser. Ainsi, j'aimerais beaucoup qu'Esther et Diane réitèrent leur demande de club de couture, parce que ce sera à Jack de se dépêtrer de ce sac de nœuds. Il commencera peut-être par me briser le bras ou me broyer les doigts dans une porte. Jusqu'à présent, il ne m'a encore jamais agressée physiquement, même si, à mon avis, ce n'est pas l'envie qui lui en a manqué. Quelque part dans l'après-midi, on sonne au portail. Je saute de mon lit pour coller mon oreille à la porte. C'est la première distraction qui s'offre à moi depuis longtemps, car personne ne passe chez nous à l'improviste. Je guette, désireuse de savoir si Jack va ouvrir à l'intrus ou, du moins, s'enquérir de ce qu'il amène. Quand tout reste silencieux, je comprends qu'il préfère faire comme si nous n'étions pas là. Derrière le haut portail, on n'aperçoit pas la voiture depuis la rue. Une chance pour Jack. Quand notre visiteur sonne une seconde fois avec impatience, je pense aussitôt à Esther. Elle a énormément occupé mon esprit ces derniers temps, surtout à cause de la façon qu'elle a eue de répéter son numéro de téléphone portable au restaurant la semaine dernière. Plus j'y réfléchis, plus je suis convaincue qu'elle a deviné que j'avais besoin de le réentendre. Je sais maintenant que si jamais arrive le jour où j'aurai besoin d'appeler à l'aide, ce sera vers Esther que je me tournerai plutôt que vers Diane, que je connais pourtant mieux. J'ai perdu toutes mes amies, même Kate et Emily, alors que j'avais cru qu'elles m'épauleraient toujours. Mais mes courriels, irréguliers et très courts car dictés par Jack, dans lesquels je m'extasiais sur ma vie de femme mariée et assurais être trop occupée pour les voir, ont eu pour résultat légitime que les leurs se sont taries. Elles ne m'ont même pas envoyé de carte d'anniversaire cette année. Maintenant qu'il s'est débarrassé de mes amis, Jack me permet de répondre en personne aux courriers électroniques qui me sont spécifiquement adressés, ceux de mes parents ou de Diane, par exemple, au lieu de s'en charger lui-même. C'est juste pour leur donner une saveur plus authentique, même si je ne suis pas sûre d'atteindre à l'authenticité quand il me souffle dans le cou pendant que je les rédige. Dans ces occasions, il m'amène à son bureau, et j'apprécie ces moments où, entre l'ordinateur et le téléphone à portée de main, mes possibilités de donner l'alerte sont plus élevées que n'importe où ailleurs. Mon cœur se met toujours à battre plus vite quand Jack me fait asseoir, car je ne renonce pas à l'espoir qu'il soit distrait suffisamment longtemps pour que je puisse arracher le téléphone de sa base, composer le 999 et hurler mon désespoir à la police, ou taper quelques mots rapides sur le clavier à mon correspondant du moment et expédier le message avant qu'il ait eu le loisir de m'en empêcher. Si la tentation est immense, Jack ne relâche jamais sa garde, malheureusement. Penché sur moi pendant que j'écris, il vérifie chaque mail avant de m'autoriser à l'envoyer. Un jour, j'ai cru ma chance venue, car on a sonné au portail alors que j'étais assise devant l'ordinateur. Sauf que, au lieu d'aller voir de qui il s'agissait à l'interphone, Jack a ignoré le coup de sonnette, comme il ignore le téléphone quand celui-ci retentit en ces instants-là. Néanmoins, ma frustration, alors qu'il me raccompagne à ma chambre, se mêle à un sentiment qui frôle la satisfaction, surtout après que j'ai écrit à mes parents. C'est comme si les mensonges que je leur raconte sur des week-ends avec Jack, la visite de manoirs ou jardins somptueux, des endroits où je n'ai pas mis les pieds et où je n'irai sans doute pas, et que je suis pourtant capable de décrire en détail, devenaient réalité. Mais, comme toujours avec les bouffées d'euphorie, la chute est rude. Et je finis plus désespérée que jamais. Le visiteur ayant renoncé à sonner une troisième fois, je retourne m'allonger sur mon lit. Je suis tellement agitée que je décide de méditer un peu pour me détendre. J'ai appris seul l'exercice, peu après que Jack m'a installée dans cette cellule, par crainte de céder à la folie par désœuvrement. Je suis maintenant si douée que, parfois, je réussis à dériver pendant ce qui semble être des heures, mais est sans doute bien plus court. En général, je commence par m'imaginer assise avec Millie dans un beau jardin, un petit chien à nos pieds, Pam au lit. Pour pouvoir me perdre, il faut que je m'appuie sur des souvenirs heureux. Aujourd'hui, cependant, je ne parviens pas à me relaxer parce que la seule image qui me vient est celle d'Esther s'éloignant de chez nous. Mon isolement m'a rendue superstitieuse et je prends son départ comme le signe que je me suis trompée, qu'elle ne sera pas celle qui me sauvera. Environ une heure après les coups de sonnette, j'entends Jack qui monte les marches. J'essaie de deviner s'il vient jouer au chat et à la souris avec moi ou s'il m'apporte un déjeuner tardif. Il déverrouille la porte. Comme il n'a pas de plateau dans les mains, je m'apprête à subir l'une de ses manipulations sadiques, d'autant que c'est un livre qu'il tient. Le désir de bondir pour m'en emparer est violent, mais je garde un visage impassible et déploie beaucoup d'efforts pour ne pas regarder le volume, tout en me demandant quel tourment Jack a encore inventé. Il sait combien j'aspire à lire. J'ai perdu le compte du nombre de fois où je l'ai supplié de m'autoriser un journal, rien qu'un par semaine, afin de rester au courant de ce qui se passe dans le monde, de ne pas être prise pour une parfaite imbécile quand nous sortons. Là, je m'attends donc à ce qu'il me propose le livre pour mieux m'en priver ensuite. « J'ai quelque chose pour toi », m'annonce-t-il. « Quoi ?» Je réponds sur le ton le plus indifférent possible. « Un livre. » Silence. « Tu en as envie ?» insiste-t-il. De la part de Jack, c'est la question que je hais le plus, dans la mesure où, que je dise oui ou non, je suis fichu. Aussi, je me contente d'un « ça dépend ». Je m'en veux de prolonger la torture en essayant de le retenir, juste parce qu'il est quelqu'un à qui parler. De quoi ? Du titre ? S'il s'appelle « Ma vie avec un psychopathe », alors non merci. Il sourit. En fait, c'est celui qu'a recommandé Esther. Et tu as décidé de me l'acheter ? Non. Elle l'a déposé. Il se tait de nouveau. Reprend. Normalement, je l'aurais flanqué directement à la poubelle, mais elle l'a accompagné d'une charmante invitation à dîner samedi prochain, avec un post-scriptum précisant qu'elle a hâte de connaître ton avis. Je te conseille donc de l'avoir lu d'ici là. Je ne te garantis pas que j'aurai le temps, mais je ferai de mon mieux. Évite les insolences. Me prévient-il. Tu es devenue si finaude pour éviter les punitions que je risque de m'énerver au plus petit prétexte. Il s'en va. Incapable de me contenir plus longtemps, j'ouvre l'ouvrage et en parcours la première page, histoire d'avoir une idée du sujet. Je devine aussitôt que je vais l'adorer et me désole de savoir qu'il ne me faudra qu'une journée ou deux pour l'avoir fini. Ne devrais-je pas patienter un peu avant de me lancer dedans pour de bon? Me limiter à un chapitre quotidien? Mais comme il est toujours possible que Jack me le reprenne avant que je l'aie achevé, je décide de m'installer sur le lit afin de profiter au mieux des plus belles heures de ma vie depuis longtemps. Au bout d'un moment, je remarque qu'un des mots que je viens de lire, « bien », se détache des autres. J'y regarde de plus près et constate qu'il a été très légèrement grisé au crayon à papier. Ce détail titille ma mémoire, et revenant en arrière, je découvre que le verbe « va » a été mis en avant de la même façon. Ombre si ténue que je ne pense pas que je l'aurais aperçue sans la chercher. Je remonte encore un peu et tombe cette fois sur l'adverbe « tout ». Je l'identifie comme celui qui a retenu mon attention tout à l'heure, même si, sur le moment, je l'ai expliqué comme un quelconque problème d'impression. Intrigué, je continue ma traque et finis par dénicher un « que », puis un « s » vers le début du roman. Rassemblé, ça donne « Est-ce que tout va bien ?» Le cœur battant la chamade, je me demande si Esther m'a envoyé un message. Dans l'affirmative, il doit se poursuivre. De plus en plus excité, je feuillette le livre en quête d'autres termes mis en valeur et découvre « AV »,« vous »,« besoin » et à l'avant-dernière page, « aide ». J'exulte à l'idée qu'Esther ait senti que je suis dans une situation épouvantable, qu'elle souhaite m'aider. Ça ne dure pas, hélas. En effet, comment vais-je lui répondre, puisque je n'ai accès à rien, pas même à un banal crayon? Et si j'en avais un, je ne saurais que lui dire. Un simple « oui » n'y suffirait pas. Un « oui » prévenait la police serait inutile, car Jack a les autorités dans sa poche. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. À l'instar du personnel de notre hôtel en Thaïlande, elles me connaissent comme une bipolaire ayant une fâcheuse tendance à accuser son brillant et dévoué avocat d'époux de la garder sous clé. Même si les policiers débarquaient à l'improviste ici, Jack n'aurait aucune difficulté à justifier l'existence de ma chambre, simple pièce parmi toutes celles que compte la maison. De toute façon, il ne me laissera jamais rendre le livre à sa propriétaire sans l'avoir consulté au préalable, comme il vérifie toujours mon sac à main quand nous sortons, histoire de s'assurer qu'il est vide. Ce qui m'amène à penser qu'il ne m'aura pas apporté l'ouvrage sans l'avoir d'abord examiné de très près. Conclusion, il a forcément remarqué les mots ombrés. Je suis consternée, notamment parce qu'Esther pourrait être en danger et parce que je vais devoir redoubler de prudence quand je m'entretiendrai avec elle la semaine prochaine. Étant dans l'incapacité de communiquer avec elle par le même biais, il est évident que Jack guettera le moindre de mes mots. Il s'attendra certainement à ce que je lâche une phrase telle que « J'ai trouvé très pertinent le message que l'auteur essaie de faire passer. » Il en sera pour ses frais. S'il m'est arrivé d'agir sottement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vais avoir du mal à communiquer avec Esther, mais je refuse de me laisser abattre. Je suis trop heureuse qu'elle ait deviné aussi rapidement ce que personne, ni mes parents, ni Diane ou Janice, ni la police n'a encore vu. À savoir que Jack contrôle tous mes faits et gestes. Voilà qui engendre de nouvelles réflexions perturbantes. Si Esther a compris que Jack ne laisse rien au hasard, elle a forcément saisi qu'il surveille tous ceux avec quoi j'entre en contact. Or, si elle l'a identifié comme un homme qu'on ne traite pas à la légère, pourquoi a-t-elle pris le risque d'être découverte alors qu'elle n'a aucune preuve tangible pour étayer ses soupçons? Je retourne à ma lecture en réfléchissant à un moyen d'échanger avec elle sans que Jack s'en aperçoive. Je n'ai pas le droit de l'abandonner alors qu'elle a réussi à percer la vérité avec une étonnante perspicacité. En début de soirée, alors que je suis encore en train de cogiter, j'entends Jack dans l'escalier. Je referme vivement le volume et le place à l'écart sur le lit. « Tu l'as déjà terminé ?» lâche-t-il avec un signe du menton en direction du livre. « Non, je mens. J'ai même du mal à entrer dedans. Ce n'est pas mon genre de littérature. Tu en es où ?»« Pas très loin. Veille à le finir avant que nous les voyions. » Il s'en va et de nouveau je me perds en conjectures. C'est la seconde fois qu'il insiste pour que j'achève le roman avant la date butoir. Déduction logique, il n'ignore rien des termes ombrés et espère que je vais creuser ma propre tombe. Ne l'a-t-il pas admis en personne un peu plus tôt, quand il a lâché que je devenais un peu trop maligne à son goût et que les punitions lui manquaient? J'imagine sa joie quand il a repéré le stratagème d'Esther, son hilarité devant ses pathétiques tentatives pour m'aider. En même temps, plus j'y réfléchis, plus je suis persuadée que je loupe quelque chose. Ce n'est qu'en me souvenant du délai qui s'est écoulé entre le moment où on a sonné et celui où Jack m'a monté le livre que je prends conscience que les mots mis en évidence ne sont pas l'œuvre d'Esther, mais la sienne.